Vincent Fournier. Ah! Ah! Faut que je porte mon pauvre lutrin. Il est lourd. Vous me croyez pas qu'il est lourd? Est-ce que je peux vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée l'été dernier? Mon épouse et moi, on voulait amener nos enfants en voyage dans un lieu de rêve. En tout cas, c'est ça qu'on s'était fait dire. Il paraît que c'est un endroit, il y a toutes sortes d'oiseaux qu'on peut observer. En tout cas, on n'était jamais allé, mais c'était la réputation. Alors, on a pris notre voiture, on a fait un long voyage, très, très fatigant. Puis, on est arrivé à notre destination en fin de journée. Il faisait noir, on était fatigué. Et là, je roulais avec ma voiture dans les ténèbres. On rentrait dans une sorte de jungle. Puis, la seule lumière qu'on avait, c'était les phares de la voiture qui éclairaient le feuillage. Puis, dans le ciel, devant nous, dans l'atmosphère, il y avait toutes sortes de créatures volantes, vraiment impressionnantes. Comme un nuage de... Pour moi, ça avait l'air comme des chauves-souris. Un nuage de chauves-souris sur des kilomètres et des kilomètres. Est-ce que je peux vous dire que je me demandais vraiment si ça allait vraiment être un paradis, notre lieu de camping, ou si ça allait être un cauchemar. Fait que finalement, on a continué à rouler, on est arrivé au kiosque d'accueil, puis c'était fermé. Il n'y avait plus aucun employé, mais c'est vous, si j'avais été à leur place, moi aussi je me serais sauvé, parce que ça faisait tellement peur. Puis là, on essayait de rassurer nos enfants étaient dans la voiture, ils ne voulaient pas sortir de l'auto. Parce qu'il y avait trop de bibittes. C'était des gros insectes, là. On les connaissait pas. Est-ce qu'ils sont dangereux? On pouvait pas savoir. Il y en avait partout, même sur la porte du kiosque d'accueil. C'est vrai, hein? Il était recouverte d'insectes étranges. Fait que là, on n'était pas pour dormir dans l'auto, hein? On serait pas très confortable. J'ai dit aux enfants, inquiétez-vous pas. Finalement, Alexandra et moi, on essayait de les rassurer, mais nous-mêmes, on n'était pas trop, trop chaud à l'idée de sortir de la voiture. Fait que qui s'est sacrifié puis qui est sorti de l'auto? Hein? Alors, j'ai voulu montrer qu'il n'y avait rien là, qu'il n'y avait pas de danger. Puis, si j'avais eu ma Bible avec moi, voici le verset que j'aurais lu aux enfants. Hébreux 12. Verset 1. Rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Courez les enfants, courez comme si votre vie en dépend. Puis on s'est rendu jusqu'à notre tente. Est-ce qu'on peut se lever? Alors, levez-vous les enfants, vous allez faire comme on a fait ce jour-là. Je vais vous faire courir comme si votre vie en dépendait, OK? Imaginez qu'il y a plein d'insectes là, qui vous entourent, qui vous courent après. Alors, allez, debout. Vous êtes en forme? Alors, à mon signal, 1, 2, 3, courez les enfants! Courez comme si votre vie en dépendait! OK, vous pouvez vous asseoir. Alors, on va revenir à notre texte biblique pour aujourd'hui. Je le lis dans la traduction « Parole de vie ». Hébreux chapitre 12. Rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. En combattant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Est-ce qu'on peut prier? Puis après, on va faire une petite chanson pour les parents. Seigneur, notre Dieu, on veut ouvrir nos cœurs ce matin pour que tu puisses nous enseigner, nous fortifier. On est tes enfants, Seigneur, puis tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc on veut être à l'écoute de ta parole pour que tu fasses ton œuvre en nous. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire amen. Est-ce qu'on a un chant? Les enfants, vous l'aimez ce chant-là, mais je pense que les adultes le connaissent pas. C'est « Crois au Seigneur Jésus ». Fait que je vous fais encore lever debout. Je vous fais encore lever. Doc, il est tannant. Et il vous fait toujours bouger. Allez, 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 allez. « Crois au Seigneur Jésus ». On l'a déjà fait à Carrefour Junior. Ça dit « L'univers déborde ». Faites-le avec moi. « L'univers déborde de ses bontés. Nul ne pourrait les compter ». Vous êtes prêts? L'univers déborde de ses bontés, nul ne pourrait les compter. Faites avec moi! Pour qui ces merveilles fut-elle créée? C'est pour moi, c'est pour toi. Que pourrais-je faire pour le remercier? Chantez de tout votre cœur!
Crois au Seigneur Jésus.
Plus fort!
Crois au Seigneur Jésus. Il est venu, il est mort, il est ressuscité.
Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. À vous.
Crois au Seigneur Jésus. Il est venu, il est mort, il est ressuscité.
Crois au Seigneur Jésus. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il dû mourir? Il est mort pour nos péchés. Pour qui donc a-t-il donné sa vie? C'est pour toi, c'est pour moi. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Tout le monde ensemble! Crois au Seigneur Jésus.
Crois au Seigneur Jésus.
Il est venu,
il est mort, il est ressuscité.
Crois au Seigneur Jésus. Encore une fois! Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus.
Il est venu, il est mort, il est ressuscité.
Crois au Seigneur Jésus. Alors là, on va chanter de tout notre cœur que notre Dieu est pas mort. Il n'est pas une religion morte, mais que notre Dieu est... Notre Dieu est...
Vivant.
Dieu n'est pas mort.
Il est vivant.
Dieu n'est pas mort.
Il est vivant.
Dieu n'est pas mort. Non. Dieu n'est pas mort.
Il est vivant.
Dieu n'est pas mort.
Il est vivant.
Dieu n'est pas mort. Non. Même les parents, même les adultes, vous pouvez chanter avec nous. Dieu n'est pas mort.
Il est vivant.
Dieu n'est pas mort.
Il est vivant.
Dieu n'est pas mort. Non.
Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Il est venu, il est mort, il est ressuscité.
Crois au Seigneur Jésus. Une dernière fois.
Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus.
Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Seigneur ressuscité? Alors, le passage de la Bible qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreux nous parle de l'épreuve de la foi. Et je veux remercier mon frère Martial pour sa sensibilité au Saint-Esprit ce matin à travers la parole d'exhortation inspirée qui nous a partagé. L'épreuve de la foi. Dans un autre passage, l'apôtre Paul nous parle de combattre le bon combat de la foi. Lorsqu'il s'adressait à Timothée, son disciple, de combattre le bon combat. L'expression évoque une compétition, comme une épreuve sportive. Alors, tout comme Timothée, nous aussi, on doit compétitionner avec foi et pour la foi en Jésus. Celui qui veut suivre le Seigneur doit concourir de son mieux. De notre mieux, oui. Qui aime gagner ici? T'aimes pas gagner? Hein? Qui aime gagner? Qui a déjà savouré une petite victoire? Toi, t'as déjà savouré une... J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui pourrait nous dire la petite victoire qu'il a vécue peut-être cette semaine ou dans les derniers jours. Toi, est-ce que tu as vécu une victoire?
Non.
Qui veut nous raconter une petite victoire que tu as eue? Toi, est-ce que tu aurais une petite victoire?
Au Kinball.
Au Kinball, qu'est-ce qui est arrivé?
On avait gagné.
Ton équipe a gagné?
Oui.
Et comment tu t'es senti?
Bien.
Juste bien?
Oui.
Mais est-ce que tu as sauté? Oui, quand ton équipe a gagné? Ça fait du bien. Qui d'autre a un petit témoignage? Peut-être à la maison, Elliot, Lucas, je sais qu'on a des amis sportifs qui nous suivent à partir de la maison. Comment on se sent quand on gagne? Il y a un autre témoignage ici, oui?
parce que je faisais une course, puis mon ami m'a dépassé, mais j'ai quand même persévéré.
Ton ami t'a dépassé à la fin de la course? Puis, comment tu t'es senti?
Un petit peu mal.
Un petit peu mal d'avoir vu l'autre? Je comprends. Je comprends très bien. Puis, t'as persévéré. Top là. Et toi aussi, t'as un témoignage, hein? T'as vécu une petite victoire?
Oui.
À quel moment?
Au soccer.
Tu joues au soccer dans la neige?
Non.
À quel endroit tu joues?
À mon école.
Ah, OK, à l'école. Puis, comment tu t'es senti quand tu as eu la victoire?
Bien.
Juste bien?
Ouais.
T'as-tu crié?
J'ai pas compris.
As-tu prié? Non, as-tu crié?
Moyen.
Parce que t'es tellement habitué de gagner, pour toi, c'est comme, c'est une journée normale. Hein? Et vous m'impressionnez, les jeunes. Vous m'impressionnez. Ben, qui aime perdre ici? Hein? Il n'y a pas personne. Il y a les petits fins finaux qui lèvent la main pour dire, oui, moi, j'aime perdre. C'est dur, perdre. On a tous... OK, regardez-moi, les enfants. Les parents aussi, regardez-moi, là. C'est dur perdre. On a tous dû apprendre à retenir nos larmes quand on perd. Au début, quand on apprend à jouer, nos parents nous laissent des chances. Saviez-vous ça? Ils ne veulent pas qu'on se décourage trop vite. Ça leur fait tellement plaisir de nous voir sourire parce qu'on les a battus. Dites-le pas trop fort, les enfants, mais vos parents, ça leur fait plaisir de perdre pour vous laisser gagner. Ils sont contents. Il aime ça se faire battre. Mais d'un autre côté, un enfant que les adultes laissent toujours gagner va finir par penser qu'il est meilleur qu'il ne l'est en réalité. En d'autres mots, il saura jamais vraiment s'il est bon à ce jeu-là. Êtes-vous d'accord avec moi? Si on vous laisse toujours gagner, vous ne saurez pas savoir si vous êtes vraiment bon. Vous ne pourrez pas savoir si vous êtes amélioré parce qu'on vous laisse des chances. Il y a un auteur qui a dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » C'est Corneille qui a dit ça, mais c'est pas Corneille là, du camp d'enfants. C'est un autre Corneille. « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Ça veut dire quoi, ça? C'est des grands mots, hein? Le gars qui a écrit ça, il est devenu millionnaire. Que vous comprenez pourquoi? Non. Si on a des victoires, mais qu'on n'a pas travaillé fort pour les obtenir, est-ce que ça vaut beaucoup, cette victoire-là? Ça vaut pas grand-chose, hein? En tout cas, peut-être aux yeux des hommes, ça peut impressionner, mais nous, on le sait que on l'a pas nécessairement mérité ou on n'a pas travaillé fort. Ben, savez-vous quoi? La vie avec Dieu est une vraie partie. Il ne fait pas semblant de nous laisser gagner. En fait, la vie avec Dieu, c'est une vraie partie, mais c'est aussi, d'une certaine façon, une répétition. Un peu comme un match de saison régulière. Est-ce qu'il y a des amateurs de sport ici? Vous savez de quoi je parle? Hein? Un match de saison régulière, ça compte au final, mais c'est surtout une étape vers le grand championnat. Un jour, le maître nous dira, « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. » Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Qui veut connaître un peu plus ce défi qui se dresse devant nous? À quoi doit-on s'attendre durant cette course, durant cette épreuve de la foi? Je vais vous donner des trucs pour gagner. Est-ce que ça vous intéresse d'un coup? Hein, les enfants? Les adultes aussi? Avouez-le, vous aimez gagner aussi. On est trop humble, hein? Je vais vous donner des trucs. Je vais vous parler dans Hébreux 12 des parasites qui nous paralysent. Répétez avec moi, les parasites qui nous paralysent.
Les parasites qui nous paralysent.
Ouh! Trois parasites qui nous paralysent, qui peuvent nuire à notre course avec Dieu. Un, dites-le avec moi, un, le fardeau. de le péché. Et troisièmement, le découragement. Alors, on va commencer avec le fardeau. Le passage qu'on a lu tout à l'heure disait « Rejetons tout fardeau ». Rejetons. Le fardeau, c'est ce qui nous rend plus lourds. Plus lourds. Comme les beignes que vous avez mangés ce matin, là, avant de venir à l'église. Ce qui nous ralentit et qui peut même nous empêcher d'avancer avec Dieu. C'est quoi le bagage qui nous ralentit dans notre course avec Dieu? C'est pas un fardeau matériel, c'est pas un sac à dos, un vrai, mais il y a quelque chose qui nous ralentit dans notre course avec Dieu. C'est quelque chose de spirituel. Quelque chose, regardez-moi bien, quelque chose qui peut captiver nos cœurs et nos pensées. Quelque chose qui peut nous captiver et même immobiliser notre esprit. Savez-vous? Ça existe. Quelque chose qui peut immobiliser notre esprit. Nos mains et nos yeux continuent de fonctionner, mais notre âme est paralysée. Vous connaissez pas ce geste-là? Hein? Nos mains et nos yeux fonctionnent, mais notre âme est paralysée. Tu connais ça, un jeu addictif? Un jeu, vous savez pas, j'avais jamais entendu cette expression-là. Avant, quelque chose d'addictif, c'était mauvais. Comme une drogue ou quelque chose de toxique, de mauvais. Maintenant, les vendeurs de jeux, ils vont dire, hey, venez essayer mon jeu, il est super bon, c'est un jeu addictif. Mais ça, c'est quelque chose qui paralyse l'âme. Quand tu fais un jeu addictif, tu oublies tous tes problèmes. Mais tu oublies aussi le Seigneur. ouais, hein? C'est vendeur. Ben, OK. Je me demande si ça existait à l'époque des apôtres. À l'époque de l'apôtre Paul, est-ce que ça existait des jeux addictifs? Est-ce qu'il y avait des jeux vidéo dans le temps de Jésus? Non. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il devait trouver le temps long. Qu'est-ce qu'il faisait pour s'occuper? Bonne question, hein? Il priait. Hey boy! La vie des enfants devait être sérieuse. Ouh! Rejetons donc toute appli qui nous rend accro, dit l'évangile de 2025. Certains disent, tout m'est permis. Oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. On ne veut pas être esclave d'une appli ou d'un jeu, hein? Bon. Ça, c'est quand on est enfant, mais quand on grandit, on devient plus sérieux. OK? On va passer beaucoup moins de temps dans nos petits jeux, puis on va mettre sur notre dos de nouveaux fardeaux. Ce ne sera plus des jeux, ça va être d'autres fardeaux qu'on met sur nos épaules. Ce sont les problèmes de la vie qui nous tracassent. Ah, demande à tes parents. Vous l'avez vu, hein, les enfants, la vérité sort de la bouche. Viens donc prêcher. La vérité sort de la bouche des enfants. On joue moins, on se met des problèmes sur le dos et on l'air plus important que les petits jeux, mais ils peuvent tout autant nous ralentir dans notre course avec Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. » Alors, les parents disent « Amen ». Vous, vous comprenez pas, hein? Ils disent « Mais non, ça parle pas de jeux vidéo. » Non, ça parle des soucis. Des soucis. Puis là, les parents disent « Amen, amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Ça en est une sorte de fardeau. Vous savez quoi? On peut parler à Dieu de tous les sujets. Tous les sujets qui nous préoccupent. Il veut nous alléger. Là, je pensais que j'allais entendre un autre « Amen ». Dieu veut nous alléger. C'est pour ça qu'il dit « Rejetons tout fardeau ». Tout ce qu'il nous demande, c'est de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Les fardeaux, il s'en occupe. Une fois qu'on s'est débarrassé du poids qui nous ralentit, hein, il faut ensuite s'occuper d'un obstacle majeur qui barre notre route. Et c'est le deuxième point, le péché. Rejetons tout fardeau et rejetons le péché. Puis ici, le passage ne parle pas vraiment de nos fautes personnelles, de nos erreurs, mais plutôt du péché qui nous enveloppe dans le monde. Écoutez bien, le péché peut être à deux endroits différents. Le péché peut être à deux endroits. Il peut être en nous, dans une personne, ou il peut être autour d'une personne, dans le monde environnant. L'auteur, il parle ici du péché extérieur qui entoure le coureur ou la coureuse. De toute façon, là, peut-être que je me ferais pas aimer, mais si le péché est dans la personne, elle ne peut pas courir la course avec Dieu. Elle est disqualifiée. Si le péché est dans la personne, on ne peut pas courir la course. C'est sérieux, hein? Mon ami, es-tu dans la course? Seuls les vrais chrétiens sont dans la course. Seules les vraies chrétiennes sont dans la course. Ça n'empêche pas qu'on est environné par le péché. Le péché est dans le monde. C'est tout autour de nous. Mais avant, c'était en nous. Avant, on avait du péché en nous. Le péché nous habitait et on avait besoin d'une intervention surnaturelle. Comme une opération spécial pour venir enlever le péché de notre cœur. Puis en croyant en Jésus, on l'a chanté tout à l'heure, en croyant à Jésus, on a expérimenté cette purification intérieure et ensuite on s'est fait baptiser, il y en a ici qui se sont fait baptiser, hein, pour le démontrer publiquement. Jésus a dit, prochain verset, Matthieu 7, Jésus a dit « Entrez par la porte étroite ». Écoutez bien, ça c'est un des passages super importants. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Qui est le chemin? Qui est le chemin? Jésus. Qui a dit ça? Bravo, merci. Ah. Crois au Seigneur Jésus. Il est venu, il est mort. Crois au Seigneur Jésus. Notre Sauveur, il vit maintenant en nous. Mais on est encerclé. Hein? On a enlevé le fardeau de nos épaules, mais on est encerclé. Il y a des obstacles. Les pièges sont partout. Avez-vous déjà fait une course? Tantôt, quelqu'un nous parlait d'une course qu'elle a gagnée, mais imagine s'il y avait eu plein de pièges. Ben, la course avec Dieu, il y a des pièges autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à courir? Il faut rejeter les influences d'un monde pécheur. Attention, voici un secret important de notre épreuve. Okay? C'est très important de le souligner. Rejeter le péché ne signifie pas de rejeter les personnes qui commettent des péchés. Quand même. Au contraire, l'amour de Dieu en nous fait qu'on rejette la violence et la vengeance. Vous êtes d'accord? L'amour de Dieu en nous fait qu'on aime les gens, même s'ils commettent des péchés. On rejette la violence, la vengeance, pour pardonner à ceux qui nous font du mal. Permettez-moi un petit témoignage, OK? J'étais bénévole dans un camp de jour en Colombie-Britannique il y a quelques années. J'avais 42 ans, j'étais un peu le mouton noir dans le groupe parce que tous les autres moniteurs, c'était des ados. J'étais un papa, pas trop cool, mais quand même. Hein? Papa qui donne de son temps, c'est bien. On revenait en autobus d'une activité en ville, puis les jeunes qui étaient assis derrière moi dans l'autobus ont commencé à s'exciter, les jeunes moniteurs. Okay? Il y en a un qui a voulu faire une blague, là. Il a fait semblant de se moucher avec sa main. Il s'appelait Ronaldo, OK? Le jeune Ronaldo, il a fait semblant de se moucher. Puis après, il est venu s'essuyer sur mon chandail. En blague. Est-ce que vous trouvez que c'est une... Pensez-vous que j'ai ri? J'ai ri jaune, oui. Non, j'ai pas ri. J'étais fâché. Il a fait semblant de se moucher puis de s'essuyer sur moi. C'était vraiment dégoûtant. Il y avait rien, mais juste de faire semblant, c'est déjà très dégoûtant. J'en revenais pas. Je me dis, Comment ça qu'il peut me manquer de respect? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tourné vers lui et j'ai demandé, qu'est-ce que tu fais? Je me retenais pour pas me fâcher contre lui. J'avais... Vous pouvez imaginer que je bouillais intérieurement. Je cherchais une façon de le remettre à sa place. Puis, je me suis rappelé l'histoire de la Bible que j'avais lue ce matin-là. C'était l'histoire d'Abraham. Puis que Dieu l'avait appelé, puis il avait dit, « Je vais être ton bienfaiteur et ton défenseur. » Puis là, j'ai senti le Saint-Esprit dans mon cœur, le Saint-Esprit me dire que si c'était vrai pour Abraham, bien, ça pouvait être vrai pour moi aussi. Que Dieu allait être mon bienfaiteur, mon défenseur. Dans cet autobus-là, alors qu'il y avait un gars qui se moquait de moi, qui me niaisait, j'avais le goût de me venger, j'avais le goût de me défendre. Puis là, je me suis rappelé, non, ça va être Dieu, mon bienfaiteur, mon défenseur. Quelques instants plus tard, Ronaldo était toujours derrière moi. Je ne sais pas si c'est ses amis qui l'avaient mis au défi de le refaire encore, mais là, il a posé sa main sur mon épaule, en arrière. Mais ce coup-là, j'ai agi différemment, je l'ai laissé faire. Puis j'ai posé à mon tour ma main sur sa main pour lui indiquer que j'étais pas contre lui. Puis que je lui donnais la permission de me toucher. Savez-vous quoi? Je crois que Ronaldo s'est senti mal de ce qu'il m'avait fait subir. Parce qu'au moment de retourner chacun chez soi, lorsque l'autobus nous a ramenés, Ronaldo est venu me voir et il m'a fait une accolade. Sincère. Il est venu me faire une accolade serrée dans ses bras. Puis la semaine suivante, il m'a dit qu'il allait s'ennuyer de moi quand je repartirais au Québec. C'est peut-être pas une grosse épreuve que j'ai remportée là-bas, mais c'était une victoire pour moi d'avoir su toucher le cœur de ce jeune homme avec l'amour de Dieu. Voyez-vous, la course avec Dieu, elle est parsemée d'obstacles. C'est un défi. Puis ça nous prend un entraîneur, hein, un coach qui connaît bien ce type de course-là. Bien souvent, un entraîneur, là, je sais pas s'il y en a qui sont dans une équipe sportive, vous avez des entraîneurs. Souvent, un entraîneur, c'est un ancien joueur ou une ancienne joueuse. Cette personne sait quoi faire pour réussir. Elle sait comment le faire et elle peut te le montrer. Elle te demande rarement de faire des efforts qu'elle n'était pas prête à faire elle-même. Et c'est pour ça que notre passage nous dit « Regardons toujours Jésus ». Il n'est pas seulement celui qui est mort pour nos péchés, il est aussi le ressuscité qui vit pour nous aider. Aimeriez-vous avoir Jésus comme entraîneur personnel? Mais il va venir vous faire des exercices à la maison, là, des push-ups, des redressements, des abdos. Ça... Oui, OK. C'est pas un entraîneur physique, c'est un entraîneur du cœur, un entraîneur spirituel. Je termine mon message avec ce troisième parasite. Dites avec moi les parasites qui paralysent. OK. Le troisième parasite, c'est le découragement. OK. Ça peut nous paralyser dans notre course. Saviez-vous que le découragement peut aussi nous paralyser? Ça m'est arrivé quand j'étais en maternelle. Oui? C'était ma première participation aux Olympiades scolaires. Pasteur Coco était là. Pasteur Coco était là. T'étais-tu dans la maternelle de l'avant-midi ou de l'après-midi, toi? Là, on était ensemble, hein? T'as été témoin de ça. Je vais te rafraîchir la mémoire. C'était une épreuve, mais qui était très simple, OK? Il fallait que je coure le sprint du 50 mètres. Ça, là, ça veut dire courir à peu près d'ici jusqu'au fond de l'auditorium. C'est simple, hein? Mais moi, après quelques... J'étais tout petit. J'étais petit comme Marilyn. Mes jambes, là, ils étaient pas longues. Puis, j'ai vu mes camarades de classe me dépasser. Comme toi, tout à l'heure, tu me racontais. J'ai vu mes camarades de classe, tous les camarades, pas juste un, ils m'ont tous dépassé, alors que moi, j'étais déjà essoufflé. Je me suis arrêté en plein milieu de la course, comme paralysé par le découragement. Heureusement, ma mère est venue sur la piste de course pour me consoler. Merci, maman. Je vais demander aux musiciens de s'approcher déjà, il est déjà 11 heures. Le découragement. Il faut se débarrasser du découragement. À force de se débarrasser des fardeaux et de repousser les attaques du péché, on peut se sentir épuisé. On commence à douter de nous-mêmes et même de la bonté de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai l'impression que tout le monde me dépasse? Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à nos petits bobos? Est-ce que Dieu s'intéresse à nos petits bobos à la maison? Mais que disait la chanson? J'essaie de me rappeler d'une chanson qu'on a apprise. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi est devenu mon frère et que je suis... Je vous arrête tout de suite, mais c'est pas parce que vous chantez mal, c'est Le point, c'est simplement que c'est un mystère pour nous. Qu'un Dieu si grand pense à nous, c'est un mystère. Mais pas pour Dieu, c'est pas un mystère. Il sait parfaitement pourquoi il vous aime. Il n'accorde pas de valeur aux médailles ou aux trophées. Le monde dans lequel on vit, écoutez bien ça. Le monde dans lequel on vit nous dit que notre importance dépend du nombre de followers. Excusez mon latin. On n'a pas beaucoup de likes. On n'a pas assez de skills. On se sent loser quand on ne fait pas les playoffs. C'est vrai? Mais ces mots-là n'ont pas d'importance aux yeux du Créateur de l'univers. Lui, il dit que tu es précieux, précieuse à ses yeux. Tu as beau être petit, tu n'es pas insignifiant. Alors, soyons encouragés. En terminant, j'aimerais que tu repartes d'ici avec une attitude de gagnant, avec une attitude gagnante. Jésus a méprisé la honte. OK, on l'a chanté, on l'a lu, Jésus, notre modèle, il a méprisé la honte. Ça, c'est une attitude gagnante. Il n'a pas peur d'avoir honte. La Bible parle de résister jusqu'au sang dans la course. Si ça, c'est pas une attitude de winner, hein, de gagnant, n'ayons pas peur des petites difficultés qui sont devant nous, frères et sœurs. Jésus veut être notre entraîneur à nos côtés par son Saint-Esprit. Et il a dit à ses disciples, « C'est vous qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Je termine avec une autre histoire. Vous aimez mes histoires, même si vous ne me le dites pas. Cet automne, on a été envahis par des coccinelles dans ma maison. Je sais que chez vous aussi, vous allez... Mais non, mais c'est peut-être pas pareil. Et vous, est-ce que vous aviez des centaines de coccinelles dans votre maison? OK. C'était dégoûtant. Des coccinelles asiatiques, il paraît. Moi, on les achète pas chez Dollarama, par contre. Il y avait un nid dans ma maison avec une cinquantaine de coccinelles toutes agglutinées dans le coin. Vous auriez dû me voir avec mes enfants. On essayait de trouver toutes sortes de techniques pour les faire sortir de chez nous. Mais il y a une seule façon de purifier la maison. C'est d'expulser ce qui est mauvais ou de l'éliminer par la force. Venir à l'église, ça peut aider, mais même les meilleurs sermons ne feront pas sortir les coccinelles de la maison. Il faut agir. A-G-I-R. Agir. Dites avec moi, agir. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, qui nous enveloppe. Savez-vous comment je suis venu à bout des coccinelles? Voulez-vous savoir comment j'ai réussi à éliminer le problème des coccinelles? J'ai sorti l'aspirateur. J'ai sorti l'aspirateur puis j'ai réglé mon problème. OK? On va terminer avec un verset. Un verset dans Hébreux 10. Je vais terminer avec ça. Juste, puis on va chanter au Seigneur. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Et le verset suivant nous dit, « Car vous avez besoin de persévérance, merci Seigneur de nous le rappeler ce matin, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. »